Ces ultimes confidences du Seigneur lors de la dernière scène, eh bien, nous montrent un thème fabuleux, une tendresse de la part de Dieu, de la part du Christ, mais à travers lui, celle du Père, comme il le dit, par cette union intime qu'il a avec lui. C'est l'amitié divine qui nous est offerte. L'amitié de Dieu envers les hommes, eh bien, procède, c'est ce que dit Jésus, de l'amitié qui existe entre les trois personnes de la Trinité. C'est, en quelque sorte, c'est parce que l'amour est inventé par Dieu, qui est amour par essence et par nature, eh bien que nous, par participation, nous pouvons aimer. Ayons envers ce sentiment vraiment une grande vénération. L'amour nous divinise, puisque l'amour vient de Dieu. Cet amour divin que nous pouvons éprouver envers le Christ, eh bien, il faut vraiment le voir comme une chance merveilleuse, comme un privilège. C'est le privilège que la foi nous communique lorsque nous gardons ses commandements. Lorsque nous faisons cet effort moral, cet effort aussi intellectuel de garder, par exemple, eh bien, l'existence de Dieu et l'affirmation de Dieu en tant que Trinité et pas seulement en tant que monade, c'est-à-dire être simple et impénétrable, dont on ne sait rien, en gardant ses commandements à tous les niveaux, eh bien, nous prouvons à Dieu que nous l'aimons. Ce Dieu inconnaissable, eh bien, nous introduit dans ses secrets. Voilà l'invitation qui nous est faite. C'est inimaginable, cette affirmation du christianisme. Nous sommes appelés à partager l'intimité, c'est-à-dire l'amitié, avec Dieu. Et l'Esprit Saint, nous dit Jésus, eh bien, sera toujours avec nous, sous la forme d'inspiration, sous la forme de protection aussi. Il ne nous laisse pas orphelins. Il nous envoie l'esprit de vérité. Et il nous avertit, cet esprit-là qui nous pousse vers Dieu, c'est-à-dire qui nous pousse à voir au-delà de la matière l'éternité, et l'éternité sous la forme de la révélation, ce qu'elle nous communique. Cet esprit-là, c'est l'esprit de vérité. Voyez, la vérité, c'est la capacité de rejoindre la finalité des choses, des êtres et des choses en général. C'est embrasser le réel dans toute son ampleur. Et si nous ne regardons que la vie présente, que la matière, nous ne cernons pas toute la vérité. Vérité sur notre vie, mais vérité sur la vie de tous les êtres, et vérité sur celui qui engendre et communique la vie à tous, Dieu lui-même. L'esprit de vérité, eh bien, le monde ne le connaît pas. C'est un avertissement, de même qu'il dit ailleurs, que le monde vous persécutera comme il m'a persécuté en premier. L'esprit de vérité, c'est vraiment la propriété de Dieu lui-même, et par extension, la propriété de l'Église qui le communique aux croyants. L'Esprit Saint, c'est ce privilège d'avoir Dieu avec nous. Et le monde ne le voit pas, donc il ne peut pas le connaître. Nous ne le voyons pas, puisque Jésus le compare au vent, quelque part dans l'Évangile de Jean. Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de tout homme mu par l'Esprit Saint. Oui, nous devenons, parce que nous sommes mus par l'Esprit Saint, incompréhensibles au monde lui-même. Donc, les chrétiens ont été traités de fous, ils ont été traités de délirants et de toutes sortes de choses, d'inconsistants. Mais que nous importe? Dieu seul nous importe, et cette intimité avec lui nous réconforte et justifie, eh bien, tout ce que nous pouvons supporter des opinions du monde à notre égard. Aimer le Christ, il le répète à plusieurs reprises, c'est garder ses commandements. Les vertus chrétiennes nous font demeurer dans le Christ et dans le Père. Les vertus, c'est notre petite participation à la vie divine, à la foi, la mise en pratique de la foi très concrète. Voyez par exemple l'humilité. Elle est la vertu qui affermit toutes les autres vertus. Elle les appelle et les renforce. Et elle génère, eh bien, d'autres vertus. Elle nourrit d'autres vertus, l'humilité, la pondération, la patience, la douceur, l'accueil, la persévérance. Voilà des vertus que l'humilité fait fleurir dans le jardin de notre cœur. Pensons à l'humilité du Christ qui est vraiment exemplaire. Il ne s'est pas promené parmi les hommes en tant que Dieu, bien qu'il ne l'ait pas caché, mais sous ses paraboles ou son langage imagé, il laissait le choix d'entendre ou de ne rien entendre. Il n'a pas écrasé ses adversaires, ni de son mépris, ni de sa force. Au contraire, il a guéri ceux qui étaient malades, il a enseigné des gens qui devaient vraiment l'énerver royalement parce qu'ils ne comprenaient rien ou qu'ils ne voulaient pas comprendre, comme les pharisiens à la Nucrède. Quelle est grande l'humilité du Seigneur ! Et son humilité jusqu'à s'effacer devant le Père en se faisant clouer sur une croix. Cette humilité-là, eh bien, elle est liée à l'amour. Il n'y a pas que l'humilité dans le cœur du Seigneur, mais c'est une magnifique vertu qu'il faut toujours conserver. L'Église, c'est une construction de l'Esprit Saint, de cet Esprit que Dieu nous donne. Les Actes des Apôtres nous racontent, là, en ce moment, sa naissance et son expansion initiale. Comment elle s'organise dans les premiers temps, le concile de Jérusalem, est-ce qu'on doit circoncire les païens qui se convertissent au christianisme ou pas, et la décision de Pierre finalement c'est de ne pas le faire, c'est de se détacher du judaïsme, et parce que la loi est nouvelle, c'est celle du Christ, c'est plus celle de Moïse. L'Église, eh bien, on le voit aussi, là, c'était dans la première lecture, elle va un peu à tâtons. Vous voyez, on mentionne ici, ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus, quand Pierre et Jean arrivent chez les Samaritains. Or, on savait, ailleurs, il y avait ceux qui avaient été baptisés au nom de Jean-Baptiste, le baptême d'eau, parce que il n'y avait pas encore eu la proclamation du Christ. Et là, on a une sorte de baptême intermédiaire entre le baptême que nous connaissons dans l'Esprit Saint, issu de la Pentecôte, et un baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, l'Église a été à tâtons, mais quand Pierre et Jean arrivent, eh bien, ils confirment les croyants par l'imposition des mains, c'est-à-dire le don de l'Esprit Saint. On voit que l'Église n'est pas tout de suite donnée tout entière dans toute sa plénitude dogmatique, théologique, spirituelle, sacramentelle. Ça va progressivement, mais en même temps, la vérité demeure toujours. Elle se déploie, mais elle ne change jamais. Parce que c'est l'Esprit Saint qui construit l'Église et non pas les hommes. Et les hommes, les ecclésiastiques ou même les laïcs peuvent s'égarer en demandant à l'Église de s'adapter davantage au monde, d'accepter le mariage homosexuel, etc., etc., l'adaptation au monde. Mais ça, ce n'est pas l'Esprit Saint. Ça, ce sont les hommes, leurs opinions, leurs intérêts, leurs. L'Esprit Saint, lui, pousse l'Église depuis des commencements dans une même direction, sans jamais dévier ni à droite ni à gauche. En revanche, c'est vrai qu'il y a une progression petit à petit. L'Église, elle est faite pour nous, pour chacun d'entre nous. Elle est faite pour nous aider à croître dans l'amour de Dieu et dans la lutte contre les démons, contre cette obscurité ténébreuse là, qui nous dépasse, que nous ne comprenons jamais. Pourquoi, quel objectif ces ténèbres poursuivent-elles? Rien d'autre que la destruction, le chaos de ce qui est fait, parce que ce qui est créé est bon. Et il n'y a rien de ténébreux dans les mains de Dieu en tant que créateur. Il s'agit donc de défaire, mais jamais de construire. Dieu seul peut construire. Et c'est pourquoi il est si nécessaire de rester fidèle à l'Esprit Saint qui souffle les voiles de l'Église, et surtout de ne pas s'en mêler, sauf de collaborer bien sûr, mais de ne pas prendre la primauté dans les décisions, sinon nous défaisons, nous ne construisons jamais, même nous les hommes, parce que en dehors de Dieu nous ne pouvons rien faire. Il est très important, c'est l'Église qui nous le demande, d'éduquer des enfants à la vie chrétienne. Et ça, pour leur faire le plus grand et le plus beau des cadeaux pour leur vie future. La vie, nous le voyons, dans un monde qui est en crise, pas seulement de structure, et c'est un monde qui est en crise de sens, fondamentalement. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, les structures ne suivent plus. Eh bien, dans ce monde-là, apporter vraiment une vision cohérente de la vérité, c'est donner une force incroyable à ces enfants pour leur vie future. Ça, vous me direz, c'est un raisonnement apologétique. C'est parce que Dieu, le plus beau cadeau qu'on puisse faire à Dieu aussi. Et voilà, je reviens à l'équilibre théologique. C'est pas seulement pour nous, c'est aussi pour Dieu qui nous demande de l'aimer. Alors, la preuve, la plus belle preuve que des parents peuvent donner, c'est d'éduquer leurs enfants à la vie chrétienne. Ça, c'est le plus beau cadeau que Dieu puisse recevoir de notre part, par exemple. L'Esprit Saint est la garantie que l'Église, eh bien, ne peut pas errer face au monde. Elle est toujours là, même si elle n'est pas exempte de crise, elle aussi, elle n'est pas exempte de faiblesse, elle ne sera pas exempte de persécution et d'épreuves. Mais elle restera debout pour nous, parce qu'elle est faite pour nous et pour tous ceux qui viendront. L'Église est une famille qui nous relie à Dieu. Et ça, il y a les sacrements, cette merveille, c'est la vie dans l'Église, la vie divine dans l'Église. L'Eucharistie, c'est la présence du ressuscité en nous. Voilà l'expérience inouïe à laquelle l'Église nous invite, à laquelle je vous invite présentement, maintenant. Nous allons communier au cœur du Christ, à son sacré cœur. Nous allons boire à la source de la vie.